En Ile-de-France, vous écoutez IDFM, la plus francilienne des radios.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jacqueline Boraz au micro de Radio IDFM avec Francky à la technique. Bonjour Francky. Bienvenue à tous. Merci d'être au rendez-vous de ce nouveau numéro de l'économie en direct sur IDFM Radio. Votre entreprise est une TPE-PME. Découvrez comment, grâce à la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise, il est à la fois possible de bénéficier d'aides pour faire face à la hausse de vos dépenses de gaz et d'électricité, mais également d'offrir plus de visibilité à son entreprise en participant à un salon devenu incontournable dans le Val d'Oise. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, vendredi 10 février, le thème de l'émission sera les aides énergie mises en place par le gouvernement pour faire face à l'augmentation des coûts pour les entreprises, la prochaine édition du Salon Effervescence. Et pour tout savoir sur ces deux sujets, des experts de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise sont à mes côtés. Stéphane Beaupère, bonjour Stéphane.
Bonjour Jacqueline.
Merci pour votre présence sur ce plateau. Stéphane, vous êtes conseiller en développement industriel à la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France et à ce titre un interlocuteur privilégié auprès des entreprises industrielles du Val d'Oise. Avec vous ce matin, nous allons décliner les mesures annoncées par le gouvernement pour atténuer dans les entreprises les effets de la hausse des tarifs d'énergie. Des aides dont la modalité diffère selon plusieurs paramètres et qui méritent d'être détaillées.
Tout à fait.
À vos côtés, Catherine Poquet. Bonjour Catherine.
Bonjour Jacqueline.
Merci également pour votre présence dans nos studios.
Merci à vous.
Vous êtes animatrice de réseau d'entreprises à la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Vous relayez les informations économiques du territoire tout au long de l'année et vous faites partie, entre autres, de l'équipe qui pilote le prochain salon Effervescence qui aura lieu le 28 mars à Goussainville. Vous nous présenterez cette nouvelle édition et nous avons hâte d'en savoir plus. Bienvenue à tous les deux dans l'économie en direct sur Radio IDFM 98 ou 98.fr. Avant de vous donner la parole, notre conférencier, chercheur en géopolitique, Gérard Vespierre, est en ligne pour sa chronique bimensuelle « Décryptons le monde » sur notre antenne. L'occasion de revisiter les actualités internationales. Bonjour Gérard.
Bonjour Jacqueline. Bonjour à vos invités.
Merci Gérard. Alors Gérard, certains enjeux géopolitiques présentent de telles ambiguïtés qu'il est nécessaire de les décrypter. Ainsi, entre Israël, la Syrie, la Russie, l'Iran et l'Ukraine, quelles relations ou interactions y a-t-il entre ces cinq pays? Pouvez-vous nous aider à répondre à cette énigme?
Écoutez, nous allons essayer. Effectivement, cela fait partie d'une problématique nouvelle, à savoir que cette guerre en Ukraine eh bien, a des conséquences bien au-delà de la zone des conflits et, comme vous venez de le présenter, implique aussi les relations de la Russie avec d'autres pays bien au-delà de cette région de conflit, à savoir eh bien, le Moyen-Orient implique les relations de la Russie avec Israël. Mmh. Et cela est très important.
Oui, par où faut-il commencer aussi pour démêler toutes ces ficelles géopolitiques qui semblent bien emmêlées entre elles?
Eh bien, comme bien souvent, il est tout à fait intéressant de se repencher et de commencer par l'histoire. Donc il y a une histoire entre la Syrie et la Russie. Elle remonte au milieu des années 70. Le père de l'actuel dirigeant syrien, donc Hafez el-Assad, arrive au pouvoir en 1977 et 6 mois après, eh bien, il signe un traité d'amitié avec l'URSS d'alors. Et donc, à partir de ce moment-là, se structure la relation entre Syrie et Russie, se structure les facilités militaires dont la Russie, l'URSS d'alors, va avoir accès dans deux bases, une terrestre et une maritime. Donc nous avons là les débuts de la relation entre deux des cinq, Syrie et Russie.
Oui, et puis l'Iran va arriver aussi en début de la guerre de Syrie. Donc on a trois acteurs. Comment se produit l'arrivée d'Israël ?
Alors, l'arrivée d'Israël, eh bien, effectivement, elle est liée, comme vous venez de le préciser, à l'arrivée de l'Iran qui se réalise au moment où il y a les conséquences du printemps arabe. Donc là, nous sommes en 2011, révolution à l'intérieur de la Syrie, et pour calmer le jeu, pour faire en sorte que le président Bachar el-Assad puisse rester au pouvoir, eh bien, l'Iran va rentrer dans cette relation qu'il détient déjà avec la Syrie depuis très longtemps, car la Syrie a été le seul pays à soutenir la révolution iranienne de 1979. Donc, cette implication iranienne en Syrie va bien sûr provoquer l'action d'Israël, puisque déjà au début des années 80, l'Iran a fait naître au Liban le fameux mouvement Hezbollah. Mmh. Eh bien, maintenant, les Iraniens, par leurs milices, sont présents en Syrie. Donc, deux pays, Liban et Syrie, maintenant, ont une influence forte depuis l'Iran. Et cela, bien sûr, inquiète fortement Israël, puisque le pouvoir de Téhéran souhaite la destruction d'Israël, donc s'oppose à l'existence d'Israël. Donc de voir l'Iran si proche de ses frontières va mobiliser toutes les ressources de Tel Aviv.
Oui, le Hezbollah, dont on peut dire que c'est le bras armé de l'Iran, peut-être.
Ah, tout à fait, depuis 1982, n'est-ce pas ? Il est tout à fait intéressant de noter que ce mouvement est créé par les Iraniens en pleine guerre, alors qu'ils se confrontent à l'Irak, eh bien ils prennent quand même la décision de créer au Liban le mouvement du Hezbollah, parce que il y a là une minorité, pratiquement une presque majorité en termes de population d'obédience musulmane chiite au Liban, et donc là, bien sûr, les Iraniens donnent une priorité absolue au soutien des minorités ou presque majorité chiite dans les pays riverains.
Oui, alors là, on parlait d'ambiguïté au début de l'entretien. C'est que Israël a besoin que les défenses antiaériennes russes présentes en Syrie regardent ailleurs ce que fait la Russie, car elle ne souhaite pas non plus vraiment le maintien des Iraniens en Syrie, où elle était seule présente militairement.
Absolument. Ça, c'est un ressort diplomatique et stratégique très important. Donc, devant la présence iranienne, Israël a commencé à bombarder des installations et aussi la présence de milices donc iraniennes en Syrie. Et pour ce faire, effectivement, les Russes qui sont présents, eh bien, doivent regarder ailleurs. Et c'est cette, complicité qui va petit à petit, avec cette guerre en Ukraine, eh bien, s'estomper et probablement disparaître.
Alors, merci Gérard pour votre sens de la pédagogie, hein, qui nous permet de vous suivre jusqu'à présent. Mais comment donc allez-vous expliquer l'arrivée de l'Ukraine dans cette affaire ?
Eh bien, l'Ukraine arrive parce que l'Iran a décidé, donc allié de la Russie, d'aider son allié et de lui fournir de l'armement. Mmh. Et à partir du moment où, effectivement, il y a ce rapprochement entre l'Iran et la Russie, aussi sur le théâtre ukrainien, eh bien, voilà, on est au cœur du triptyque Iran-Russie-Israël, par ce phénomène ukrainien où les Iraniens vont aider les Russes et donc en conséquence vont demander aux Russes cette fois-ci d'interdire le ciel syrien aux missiles et aux avions israéliens.
Oui. Alors bon, bien sûr, j'imagine que Israël sera est très mécontent de ces décisions. Mais excusez-moi d'y revenir. Comment l'Ukraine continue d'apparaître dans cette affaire ?
Eh bien, c'est très simple parce que en réponse au choix totalement pro-Iran de Moscou, eh bien, Tel Aviv va faire un choix pro-Ukraine en annonçant réfléchir à l'envoi d'armement à Kiev, et on sait combien actuellement l'Ukraine a besoin d'armement sophistiqué, élaboré, puisqu'elle se retrouve en infériorité numérique par rapport à la grande population russe. Il y a 145 millions de Russes et 35 millions d'Ukrainiens actuellement dans le territoire. Donc, voyez-vous, il faut combler cet écart par une efficacité technologique militaire.
Ça. Merci Gérard pour ce grand tour géopolitique où on apprécie toujours votre esprit d'analyse, hein, mais aussi de clarté dans ce grand jeu de billard diplomatique et militaire. Maintenant, dans un deuxième volet, vous nous proposez de regarder vers un pays plus proche de nous, l'Algérie. Là aussi, vous souhaitez attirer notre attention à nouveau sur les conséquences que la guerre en Ukraine semble avoir sur la politique, cette fois algérienne. Et ce qui, à première vue, paraît difficile à imaginer. Est-ce que vous pouvez nous éclairer ?
Oui, et je pense que c'est effectivement un clin d'œil ce matin de voir et de réunir les conséquences extérieures apportées par ce conflit en Ukraine, donc sur le plan diplomatique, et on vient d'évoquer Israël, mais aussi du côté algérien. Pourquoi ? Eh bien, l'Algérie a été construite depuis la fin des années 50, la guerre d'indépendance, l'organisation donc du FLN, l'organisation après de l'État algérien, sur le modèle soviétique, donc d'inspiration russe. En termes de parti pratiquement unique, en termes d'organisation de l'économie, des sociétés nationalisées pour le gaz, pour les hydrocarbures, et puis l'importance de l'armée, donc avoir une armée forte qui finalement est la colonne vertébrale du pouvoir politique. Et donc là, nous sommes sur le modèle soviétique. Il y a eu cette proximité entre la Russie de maintenant et l'Algérie, donc depuis plus de 60 ans. Et il y a un rôle structurant, historique de la Russie vis-à-vis de l'Algérie.
C'est ça. Il faut savoir que l'Algérie, c'est 5,4% de dépenses militaires par rapport à son PIB, quand la France, puissance nucléaire, a des difficultés à atteindre les 2% demandés par l'OTAN.
Oui, effectivement, l'Algérie est le quatrième pays au monde pour les dépenses militaires par tête d'habitant. 90% de son matériel est russe. Or, il y a une réflexion que les Algériens sont en train de mener sur les conséquences donc la situation que les forces militaires russes connaissent en Ukraine.
Et donc, c'est ce qui relie les chiffres que vous venez de nous donner, c'est ce qui relie l'Ukraine, l'Algérie, l'Ukraine et la Russie quelque part.
Absolument, parce que donc l'Algérie se rend compte que le matériel soviéto-russe dont elle est dotée, eh bien, sur le champ de bataille, il n'est pas très performant. Et elle s'aperçoit, l'Algérie, que les officiers supérieurs qu'elle envoie se faire former en Russie, eh bien, finalement, apprennent et découvrent et mettent en œuvre après des méthodes de combat qui sont dépassées. Et puis, elle se rend compte qu'il sera peut-être dans les mois et les années à venir difficile d'importer du matériel militaire d'Algérie parce que il y aura sanctions pour les pays qui vont s'approvisionner en matériel militaire russe. Et donc, voyez-vous, là, on touche du doigt le côté concret des conséquences de l'invasion russe en Ukraine qui se répand bien au-delà des frontières et qui touche l'Algérie.
Et donc l'Algérie serait-elle alors tentée de regarder ailleurs ?
Bien, tout à fait, puisque ayant ces craintes de ne pas avoir une continuité stratégique dans son approvisionnement militaire, elle est obligée de réfléchir à autre chose. Les anglo-saxons, américains, anglais poussent à cet écartement de l'Algérie par rapport à la Russie depuis de nombreuses années aussi. Donc on arrive là à un point très très intéressant, peut-être de redéploiement possible des choix politiques et militaires algériens, peut-être en faveur de la France. Et ce qui pourrait effectivement se produire, puisque on a vu il y a quelques jours la visite du chef d'état-major de l'armée algérienne. Et qui a-t-il rencontré? Son homologue en France? Eh bien, pas seulement, il a même rencontré le président de la République. Il était reçu à l'Élysée. Donc on voit l'importance politico-stratégique militaire de cette nouvelle situation en train de se dessiner.
Oui, et puis alors, donc vous citez cette visite du chef d'état-major de l'armée algérienne qui a eu lieu le 23 janvier, donc c'est récent. Mais les États-Unis aussi travaillent depuis longtemps à éloigner l'Algérie de la sphère russe.
Ah, tout à fait, et il y a une activité américaine importante. Ils ont commencé à vendre même un petit peu de matériel militaire, mais comme l'on dit dans le jargon, non létal, c'est-à-dire des avions de transport militaire, par exemple les fameux Hercules qui sont très connus comme moyen de transport aérien militaire dans le monde entier. Et donc, il y a effectivement cette volonté, comme je le mentionnais, des anglo-saxons faire changer les lignes.
Merci Gérard, on va être très très attentif dans les prochaines semaines et mois à l'évolution diplomatique et militaire de l'Algérie.
Tout à fait.
Alors Gérard, avant de nous quitter, difficile de ne pas évoquer aussi le ballon chinois survolant les États-Unis et abattu par l'armée américaine. Comment expliquez-vous cette situation ?
Eh bien, je crois que les Chinois amènent depuis un certain nombre d'années, n'est-ce pas, ce genre d'opérations, de vols scientifiques, mais pouvant aussi abriter du matériel électronique d'espionnage, de reconnaissance. Donc, d'avoir sous ces ballons, le problème, c'est pas tellement le ballon lui-même que la charge utile technique, n'est-ce pas, qui le porte, qui peut atteindre ou dépasser les 1000 kilos, la tonne. Donc on est à même là d'avoir sous des énormes ballons des moyens d'observation très très puissants. Et donc le fait que ces ballons puissent traverser d'énormes distances et rester en altitude entre 30 et 50 kilomètres pendant de nombreux jours, de nombreuses semaines, voire de mois, cela est un moyen que les Chinois ont trouvé assez subtil pour compléter leurs autres outils de reconnaissance.
Alors, est-ce que vous êtes en train de nous dire que le président Biden aurait trop tardé à prendre la décision.
Écoutez, quand un président, et qui plus est le président des États-Unis, première puissance économique, financière et militaire du monde, a des décisions à prendre, il faut avoir un peu de temps pour observer. Donc c'est ce que les officiers et les effectifs du Pentagone ont mis en œuvre. D'abord, observer de quoi ils retournent, prendre des photos, envoyer des avions de reconnaissance, donc obtenir des données de façon à de ces données définir des options et des options qui sont à ce moment-là proposées au président, et on lui dit des trois options, nous vous recommandons la numéro 2 par exemple, et donc le président avalise ou fait modifier, et ensuite on décide d'agir. Donc il y a un processus nécessaire de planification et cela prend effectivement du temps pour comprendre quel était le contenu de cette charge utile que portait le ballon avant d'agir.
Une dernière question, Gérard. Donc cette décision d'abattre ce ballon chinois, est-ce que ça va impacter sérieusement les relations entre la Chine et les États-Unis ?
Eh bien, il y a eu des choses beaucoup plus agressives et délicates entre la Chine et les États-Unis d'un point de vue stratégique et militaire. Qui se souvient de ce qui s'est passé au mois d'avril 2001 ? Eh bien, à ce moment-là, un avion de reconnaissance américain avec 24 personnes à bord, donc quelque chose de très élaboré, un équipement de haute technologie, s'est aventuré à une centaine de kilomètres d'une île au sud de la Chine, et deux avions de chasse chinois sont intervenus, soit pour des problèmes techniques, soit pour des problèmes de communication, de pratique de langue. Mauvaise interprétation, mauvais contact, mauvais échange. Un des avions chinois est venu percuter l'avion de reconnaissance américain. Le pilote chinois est mort. L'avion américain a été obligé de se poser en Chine parce qu'il avait subi des dommages. Donc, voyez-vous, cela a été vraiment une crise
qu'il y avait
de première importance.
Oui, un paroxysme. Et cependant, voilà, rien ne s'est vraiment passé au-delà.
Absolument. Donc là, je pense que dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, de ce ballon qui est non militaire, en tout cas reconnu comme tel par les Chinois, il n'y aura pas de suite et de conséquences fâcheuses.
Eh bien, merci Gérard de nous rassurer et puis de ne pas nous laisser entrevoir de sombres perspectives, en souhaitant que la rationalité et l'optimisme l'emportent. Merci pour votre intervention, Gérard. Je rappelle que nos auditrices et auditeurs peuvent retrouver gratuitement vos analyses sur votre site internet www.lemondedécrypté.com. Il suffit de s'abonner. À dans 15 jours pour une nouvelle chronique Décryptons le monde.
Merci à vous.
Merci.
Et bonne matinée.
Merci Gérard, au revoir.
Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, rien, rien de lui là-haut. Les anges, zéro. Je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, 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 ça tient chaud, j'ai froid. Oh, moi qui suis blanc de peau. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc, on voit surtout du rouge. Du rouge, sans trêve ni repos, qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que les tiens seront noirs? Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes d'eau. Yeah.
Radio DFM, c'est l'économie en direct. Et ce matin, je reçois deux experts de la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Stéphane Beaupère, conseiller en développement industriel à la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. Catherine Poquet, animatrice de réseau d'entreprises à la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Et tout de suite, je m'adresse à vous, Stéphane Beaupère. Alors, pour vous situer, un court rappel sur vos missions en tant que conseiller en développement industriel, Stéphane.
Oui, donc mon rôle au sein de la Chambre de commerce et d'industrie est d'accompagner les entreprises industrielles du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis dans leur développement. Alors, le développement d'une façon générale, que ça touche aux ressources humaines, aux problématiques d'investissement, et puis bah, aujourd'hui particulièrement sur les problématiques énergie qui sont effectivement sous les projecteurs de l'actualité.
Oui, je le disais en préambule, le gouvernement a annoncé des mesures destinées à atténuer dans les entreprises les effets de la hausse des tarifs d'énergie, des aides qui diffèrent selon plusieurs paramètres, et voilà, méritent vraiment d'être décryptées. Alors, ces aides sont multiples. Vous, Stéphane Beaupère, par où souhaitez-vous commencer ?
Ben, j'ai déjà commencé par faire le constat de ce qui se passe aujourd'hui, de ce que rencontrent comme problématique les chefs d'entreprise. Le coût de l'énergie a été multiplié par 4 d'une façon moyenne. Et pour certaines entreprises, le facteur multiplicateur a été monté jusqu'à 13. Donc face à ces hausses, effectivement, l'entièreté de l'activité industrielle est remise en cause. Alors juste pour faire un petit peu d'introspection sur ce problème, l'industrie, elle s'est développée sur le postulat, un postulat de base, que l'énergie était abondante et bon marché. Ce qui veut dire que les modèles économiques qui ont été développés par les industries sont systématiquement en fait entachés de cette vérité qui aujourd'hui n'est plus vraie. Donc quand on regarde un petit peu comment sont construits les coûts des entreprises, l'énergie représente un facteur qui n'est pas un levier d'action. Hein, donc elle intervient dans le calcul du coût, mais c'est pas sur l'énergie qu'on va agir directement, on va agir plutôt sur la productivité des hommes, la productivité des machines, on va gérer les achats de matières premières de façon plus intelligente, plus fine, avec des mises en concurrence qui sont plus efficaces. Et à côté de ça, les entreprises ont une certaine plasticité, les matières premières évoluent, donc leurs coûts évoluent, elles sont habituées à ça. Mais l'énergie, effectivement, c'est un vecteur qui est caché, sur lequel on n'a pas l'habitude de jouer. Et c'est ça qui cause aujourd'hui le souci premier des entreprises. Juste pour remettre encore un petit peu de contexte sur la productivité industrielle, une entreprise industrielle qui a une marge bénéficiaire, ça se trouve autour de 3%. Donc oui. 3% du chiffre d'affaires devient quelque chose d'intéressant, on va dire, pour un industriel.
Oui.
Et quand le coût de l'énergie commence à dépasser justement ces 3% du chiffre d'affaires, alors que historiquement on était plutôt inférieur à 1%, ça devient vraiment problématique pour la rentabilité.
Bien sûr.
Donc ça, c'est effectivement le souci vient de là. Hein. Donc, il y a de l'inquiétude qui se génère, hein, qui est générée auprès des chefs d'entreprise. Il va falloir faire de cette inquiétude en fait une opportunité, notamment sur l'ambition de la France de devenir neutre en carbone à horizon 2050. Donc, on a un choc de paradigme. Hein, l'énergie abordable et abondante n'est plus d'actualité, tout simplement. On change de paradigme. Ça nous permet, en même temps, hein, de pouvoir transiter doucement vers un modèle plus soutenable pour l'économie.
Avec, malgré tout, un passage qui va faire un peu mal
effectivement.
entre aujourd'hui et cette transition à venir.
Effectivement, le but, c'est que ce ne soit pas un choc. Et c'est dans ce sens-là, en fait, que l'État a mis en place différents dispositifs pour que la transition soit la plus douce possible. Mmh. Alors, je vais détailler un petit peu plus tard ces différentes aides et puis comment elles s'appliquent en fonction des tailles d'entreprise.
Je voulais vous demander si vous souhaitez qu'on les cite toutes les aides et vous les reprenez une par une ou bien vous préférez qu'on les cite individuellement et en les détaillant.
Je vais les reprendre en fait plutôt par typologie d'entreprise.
D'accord, je vous en prie.
La Chambre de commerce a été missionnée par le gouvernement, par Roland Lescure, le ministre délégué à l'industrie, pour justement sensibiliser l'ensemble du tissu industriel français. Sur l'Île-de-France, on a 40 personnes qui sont mobilisées, donc sensibilisent les entreprises, leur présentent les différentes aides et puis peuvent les aider en cas de difficulté de compréhension à justement solliciter ces aides. Donc les aides, il y a dans un premier volet effectivement les aides financières qui sont directement applicables. Donc il y a trois catégories d'entreprises qu'il faut bien dissocier. La première catégorie, c'est les TPE, donc les entreprises inférieures à 10 salariés, qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros. Donc il y a forcément une nécessité de ne pas être filiale d'un groupe industriel. Il faut, pour les entreprises qui bénéficient en fait des tarifs réglementés, il y a ce qu'on appelle le bouclier tarifaire. Donc la démarche est très simple pour pouvoir y accéder. Il y a juste une attestation d'éligibilité qui est à fournir à son fournisseur d'énergie. La plupart du temps, les fournisseurs d'énergie ont sollicité leurs clients pour qu'ils demandent justement, pour pouvoir bénéficier de cette aide, qu'ils demandent effectivement cette attestation.
Oui.
Donc c'est une déclaration, pas sur l'honneur, mais une déclaration à faire en ligne. La plupart des fournisseurs d'électricité ont d'ailleurs des modèles qui sont vraiment prêts à être utilisés en se connectant simplement sur leur site.
Oui, sachant qu'à partir du moment où ils font cette déclaration, il peut y avoir des contrôles et voilà,
c'est le but. Exactement, oui, c'est forcément contrôlé. Mmh. Alors ce bouclier tarifaire, comme je le disais, ça s'applique aux TPE et ça s'applique aux TPE qui ont un compteur qui est inférieur à 36 kVA.
D'accord.
Hein, donc le compteur qu'on pourrait avoir chez soi.
D'accord.
Donc on retrouve en fait un dispositif qui est le même que celui utilisé pour les particuliers. Voilà,
oui.
Tout à fait. Donc pour pas entacher justement cette économie qui est quand même une masse importante en fait de l'activité économique, notamment dans le Val d'Oise, cette aide permet aux entreprises d'affronter plus sereinement, je dirais, cette hausse d'énergie. Pour les entreprises qui n'étaient pas, qui viennent de renouveler leur contrat, notamment au second semestre, il y a un tarif garanti qui a été fixé. Donc le tarif garanti est fixé à 280 euros. C'est effectivement plus élevé que ce qu'on a pu connaître avant. On était plutôt aux alentours des 50 euros. Hein, donc on retrouve un coefficient
énorme,
assez important, presque 5 fois le prix de l'électricité. Mais il faut savoir que là, au cours de l'été, le prix de gros de l'électricité était monté jusqu'à 700 euros du mégawatt-heure. Un coefficient autrement plus élevé. Donc cette garantie, en fait, on l'espère. Et puis ça s'avère aussi vrai dans les différents témoignages qu'on a pu recevoir des entreprises qu'on interroge. Ça permet quand même d'absorber ce choc du moins en partie.
Oui, oui, c'était plutôt une bonne nouvelle de savoir que c'était redescendu à 280.
Oui, clairement.
Bien sûr.
Clairement. alors effectivement, ça gomme pas tout. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui vont être à mettre en place auprès des entreprises, enfin au sein des entreprises, pour gérer l'énergie autrement, hein, tout simplement, et puis trouver des nouveaux vecteurs de rentabilité. Pour justement compenser en fait cette hausse
cette hausse, oui, qui impacte forcément le, comme vous l'avez dit au début, sur les bénéfices de l'entreprise.
Exactement. Ouais. Exactement. Alors pour les entreprises, y compris les TPE qui sont très consommatrices d'électricité, enfin d'énergie d'une façon générale, hein, que ce soit gaz ou électricité, dès lors que leur facture énergétique s'élève à plus de 3% de leur chiffre d'affaires, elles peuvent bénéficier d'un guichet d'aide qui s'appelle l'aide Energo. Alors, le détail de l'aide est un peu compliqué parce que ça dépend énormément en fait des cas d'usage, mais c'est une subvention qui est donnée en fait aux entreprises. Donc, autant pour le bouclier tarifaire, la facture arrive avec la réduction. Donc, oui. Là, c'est relativement simple. Pour le guichet d'aide Energo, c'est une subvention qui est donnée a posteriori. Donc, on s'acquitte de sa facture. Mmh. On déclare auprès du centre des impôts le montant de la nouvelle facture. Et à partir de cette déclaration, ça prend à peu près 15 jours, les impôts viennent donner une subvention pour compenser quelque peu la hausse du coût de l'énergie.
D'accord. Oui, 15 jours, ce n'est pas encore trop long. Enfin, c'est,
oui, alors, c'est une... alors c'est vrai qu'au quotidien, bon, bah, la dépense est faite en amont, donc c'est-à-dire oui, qu'en termes de cash flow pour l'entreprise, de gestion de trésorerie, il y a effectivement un petit trou de trésorerie qui peut se créer. Qui est vite recouvert, hein, donc ça va relativement vite. Pour les PME maintenant, qui ne peuvent pas bénéficier du bouclier tarifaire parce qu'effectivement, elles ont plus de 10 salariés et habituellement font plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a un amortisseur qui a été mis en place. Donc cet amortisseur a été mis en place cette année, donc il a démarré le 1er janvier 2023. Alors par chance, Le site des impôts a prévu un simulateur pour pouvoir anticiper justement la réduction de coûts que va représenter cet amortisseur. Donc ça s'adresse aux PME, c'est-à-dire toutes les entreprises inférieures à 250 salariés, avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros, ou un bilan annuel qui est inférieur à 43 millions d'euros. Donc toutes les entreprises qui font partie d'un groupe ne peuvent pas bénéficier de cet amortisseur. Donc c'est vraiment réservé aux PME.
Hein, c'est ça, comme vous l'avez dit au début, il ne faut pas être filiale, voilà.
Exactement, ouais. Donc le gouvernement en fait, a vraiment échelonné hein, les différentes mesures pour s'adapter au tissu économique. Mmh. Et effectivement, il y a une favorisation qui est faite auprès des TPE qui sont plus fragiles. Les PME, cet amortisseur permet d'avoir un premier... une première réduction, donc d'atténuer un petit peu cet effet. Et forcément, elles sont aussi plus vulnérables qu'un grand groupe international.
Bien sûr.
Parce qu'il y a le contexte géopolitique aussi qui vient rentrer en compte. Notamment, les grandes entreprises peuvent être sollicitées par des gouvernements à venir s'installer chez eux. On a vu le cas avec des très grandes entreprises qui sont également localisées sur notre département, qui ont été invitées par... notamment par le Texas, à venir s'implanter chez eux.
Ah oui, d'accord. Elles ont résisté, c'était le chant des sirènes.
C'est exactement le chant des sirènes. Et le vecteur qui a été mis en avant, hein, c'est effectivement cette énergie. On vous garantit une énergie à bas coût et abondante chez nous. On sait que le Texas est un État qui n'est pas très, très regardant sur la transition écologique, qui prend plus le temps, on va dire, que les autres États des États-Unis.
Oui.
Il essaye d'attirer les entreprises intéressantes, hein, d'un point de vue chiffre d'affaires, chez eux.
Oui, donc on comprend aussi toute l'importance de ces aides à mettre en place, parce que il y a un vrai enjeu presque géopolitique, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Ouais. Exactement. Alors autant les grands groupes qui... peuvent jouer, je dirais, un petit peu de ces facteurs géopolitiques en localisant, en favorisant plutôt une localisation des productions dans les zones où l'énergie est moins chère. Hein, ça se produit déjà dans l'aéronautique et dans l'automobile. C'est quelque chose de pas possible pour une PME de 250 personnes implantée localement dans un territoire. Et puis, on a envie de les protéger. Donc, voilà, cet amortisseur s'adresse à eux.
Stéphane Beaupère, avant de continuer, parce que le sujet est un petit peu ardu, je vous propose qu'on fasse une courte pause et puis je vous redonne la parole. À tout de suite. Très bien.
C'est l'heure où les videurs deviennent gentils, même avec les gens qui font peur et sont pas beaux la nuit. Ces pieds qui collent me donnent le sentiment qu'il faut qu'on dorme maintenant. Quand dans la boîte c'est moi, t'étais pas là, que c'est bientôt les lacs du Connemara. Je tente de danser pour plus penser mes pensées le passé. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. Call on me, brother. Je let it be over. Every high, every low, they will come and they go to feel alive. You gotta take the blows, you know. Call on me, please, brother. It is the nights when I'm drunk that it hits me most. Feels like it opens up the door I was keeping closed. It comes in waves and then it settles. Say it will end, but I know it won't. Well, I've been in a right mess, oh, I guess, since you left me here alone. Every time your name gets brought up, I get caught with the tears that will overflow. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Sans la solitude, sans toi. L'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. So you should call on me. Call on me, brother. Brother. Every high, every low, every calm, every ghost. Feel alive, you gotta take the blows, you know. So call on me, qu'on dorme maintenant. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça.
Je la sens la solitude sans toi.
IDFM Radio, c'est l'économie en direct et ce matin nous parlons des aides que le gouvernement a mis en place pour aider les TPE et PME à surmonter le coût de l'énergie. Et Stéphane Beaupère nous décline toutes ces aides. Donc Stéphane, je vous laisse continuer sur votre lancée.
Donc voilà, on a parlé des aides financières qui pouvaient intervenir auprès des TPE et des PME. Donc oui. Le bouclier tarifaire pour l'amortisseur électrique pour les PME. Et d'une façon générale, pour l'ensemble des entreprises du territoire, ce guichet d'aide, qui s'appelle le guichet Energo, qui permet de réduire la facture dès lors qu'une entreprise est énergivore, c'est-à-dire qu'elle consomme plus de 3% de son chiffre d'affaires. Oui. En énergie.
Très bien.
Donc ça, c'est trois aides. Ce sont les aides financières principales. Il y a également des aides qu'il ne faut pas négliger, les certificats d'économie d'énergie qui sont toujours valables. Voilà, ce sont des aides privées encadrées par l'État. Il y a plusieurs opérations qui sont éligibles en fait à ces certificats d'économie d'énergie, et c'est des aides qui sont directement versées par les fournisseurs d'énergie. Donc ça, il ne faut pas négliger cet aspect-là qui, notamment pour les TPE, peut être une véritable source d'économie. La région Île-de-France a également mis en place un chèque énergie.
Oui, un chèque efficacité, c'est ça?
Exactement.
Oui.
Donc ce chèque également, qui a doublé de valeur, hein, qui peut monter jusqu'à 10 000 euros pour une TPE, ça concerne forcément des actions qui sont mises en place. Donc ça aide les entreprises qui se dirigent vers cette transition écologique qui est souhaitable. Tous les travaux, donc il y a toute une liste de travaux, hein, qui sont réglementés, qui sont bien notifiés. Dès qu'on engage en fait ces travaux pour réduire sa facture énergétique, on peut bénéficier de ce chèque.
C'est ça, les travaux, c'est de l'isolation, de l'équipement basse consommation, remplacement d'équipements anciens et énergivores.
C'est tout à fait ça.
C'est ça, oui.
Donc, il faut le solliciter directement sur le site de la région.
Voilà. Et en revanche, je crois qu'il est important de dire que donc ce chèque efficacité énergétique, il s'adresse aux TPE, PME de moins de 20 salariés.
Oui, tout à fait, oui.
Et puis, très important, il s'adresse aux artisans et commerçants.
Voilà, pas seulement pour les industriels, c'est effectivement, ça s'adresse effectivement à l'ensemble des TPE et petites PME.
Donc, sache que ce ne sont pas des oubliés dans le dispositif.
Exactement, exactement.
Oui,
c'est vrai que je focalise beaucoup mon discours sur l'industrie.
C'est votre bébé.
C'est mon terrain.
Absolument. Oui, excusez-moi, je vous ai coupé la parole.
Donc voilà, il y a ces dispositifs. Donc également... Plusieurs informations qui permettent aussi de sensibiliser sur les bons gestes à adopter pour minimiser justement les consommations, des gestes de bon sens, hein, on pourrait dire de bon sens paysan,
oui.
Mais c'est toujours bien de regarder ces indications qui permettent effectivement de pouvoir faire des économies substantielles. On en parlait tout à l'heure un peu en aparté, mais fermer les fenêtres,
oui.
c'est un éco-geste qui est extrêmement efficace.
Oui.
Quand on travaille habituellement sur les baisses de consommation énergétique des entreprises, un vecteur prédominant de la facture d'énergie, c'est les fuites d'air générées par les compresseurs d'air comprimé.
Ah, d'accord.
C'est 40% en fait de réduction de coûts qui peuvent être faites dans la plupart des cas. Donc beaucoup de fuites, on les voit pas, on les entend pas, on n'y fait pas attention, et en fait rien que de colmater ces fuites, ça permet vraiment de réduire de façon importante la consommation d'énergie des compresseurs.
Donc il faut faire appel à un spécialiste qui vient auditer l'entreprise. Est capable de mettre en lumière ce genre de...
Tout à fait. Et oui. À la Chambre de commerce, on a une convention qu'on a signée avec l'ADEME pour pouvoir justement accompagner les entreprises dans leur transition, oui, énergétique.
D'accord.
Donc on a plusieurs volets en fait qu'on peut décliner. C'est une aide... on est sur une prestation de conseil. Donc un expert, la plupart du temps des bureaux Veritas, vient dans l'entreprise pendant 10 jours. Sur ces 10 jours, il y a une grosse partie en fait du coût qui est pris en charge directement par l'ADEME.
Et donc, ces travaux peuvent être pris en charge par le chèque efficacité énergétique.
Oui, exactement. Donc ensuite, effectivement, on va pouvoir déployer les différentes aides qui existent, que ce soit au niveau de la région et même au niveau de l'ADEME, hein, pour les entreprises un petit peu plus importantes que 20 salariés. Il y a des dispositifs qui sont en place et qui permettent effectivement de réduire la facture pour transiter vers l'écologie, on va dire.
C'est ça, vers la décarbonation, comme on dit maintenant.
Oui, mais c'est un terme un peu nouveau. Et
oui, c'est un nouveau mot.
Mais qu'on entend beaucoup.
Stéphane, y a-t-il d'autres aides que vous voudriez nous citer?
Oui, alors j'ai parlé des aides financières. Il y a également, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement a mis en place des conseillers départementaux de sortie de crise. Donc c'est auprès des finances publiques.
Oui.
Ces conseillers, ils sont chargés de répondre aux entreprises pour toute question relative aux aides énergie. C'est-à-dire que si vraiment il y a un point de détail... la CCI est un point d'entrée, mais également le centre des impôts permet en fait de pouvoir rentrer plus en détail en fait sur ces aides. Notamment, avec les impôts, on va pouvoir aborder en fait toutes les problématiques qui sont liées aux dettes fiscales et sociales. Donc, aller un petit peu plus loin si l'entreprise est vraiment en difficulté pouvoir passer ce cap de transition et pas le subir en plein choc. Il y a quand même une volonté très, très forte du gouvernement de surveiller justement les défaillances d'entreprise. Oui. Donc, les finances publiques y sont sensibilisées. Pour les entreprises un peu plus conséquentes de 50 à 400 salariés, ou un peu moins importante, donc si un établissement de 200 salariés par exemple, mais qui appartient à un groupe industriel, se voyait confronté en fait à des difficultés particulières liées à la hausse d'énergie, il y a également la DRIETS qui a mis en place un commissaire à la restructuration et à la prévention des difficultés des entreprises, donc le CRP, qu'il faut pas hésiter à contacter.
Très bien. Vous nous disiez, on parlait tout à l'heure de fermer les fenêtres, mais vous me disiez aussi avant l'émission que les entreprises semblent quand même très informées sur les aides que vous venez de nous préciser, nous décliner. C'est-à-dire les gens sont, il y a une vraie communication qui est faite à ce niveau.
Oui, la communication fonctionne bien. La chambre de commerce communique, les fournisseurs d'électricité, d'énergie d'une façon globale communiquent aussi, le centre des impôts communique, et l'information arrive plutôt facilement, je dirais, aux entreprises. Alors c'est vrai sur les entreprises industrielles, un petit peu moins vrai pour les TPE, oui. Plus artisanales, on travaille beaucoup avec les boulangers notamment, oui. Qui n'ont pas tellement le temps en fait de se pencher sur la question. Mais effectivement, c'est on va dire d'une façon générale, l'information circule. Et les entreprises que j'ai que j'ai souvent au téléphone, c'est plus sur des points de détail justement sur ces aides où là il faut essayer de comprendre un petit peu comment le calcul se fait et à partir de quel seuil justement on va avoir un effet bénéfique en fait des aides. Il y a toujours le temps passé en fait à remplir l'aide par rapport à sa rentabilité qui est aussi regardée par les chefs d'entreprise. Ça permet de dégrossir en parlant avec eux potentiellement, c'est toujours l'occasion quand je rencontre des entreprises de pouvoir mettre un petit peu la main dans les engrenages de l'entreprise et de voir aussi les possibilités qu'il y aurait d'un point de vue commercial, donc les arguments qu'on peut mettre en place en face de ses clients tout simplement. Ou même d'un point de vue financier, d'un point de vue compétitivité, ce qui est quand même aussi quelque chose d'important. La concurrence est importante. Faire de cette cause de l'énergie, en fait.
C'est ça, comme vous l'avez dit, ce problème, levier. Savoir rebondir. Exactement. Et puis en faire un point positif pour aller vers la décarbonation. Stéphane Beaupère, donc merci pour toutes ces informations. Si vous aviez un conseil à donner à nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent.
Oui, alors un conseil, la maîtrise de l'énergie, c'est quelque chose qui va devenir nécessaire. On ne connaîtra plus jamais un coût de l'énergie comme on l'a connu avant. Donc, c'est un levier qu'il faut dessiner au sein de son entreprise. Nous, on y travaille avec plusieurs entreprises. On va avoir notamment au sein de la communauté d'agglos de Cergy-Pontoise un atelier pour les territoires d'industrie pour voir comment on peut mettre en place un management efficace de cette énergie pour en faire un levier économique. L'idée derrière ça, c'est de se dire, à chaque euro que je vais mettre dans l'énergie, combien je vais rapporter de chiffre d'affaires. Ouais. Donc regardez le ROI, on va dire, de l'énergie.
Un dispositif gagnant-gagnant.
Exactement. Donc il y a quelques entreprises, j'ai eu notamment sur une entreprise du territoire qui m'a dit, avant, avec un mégawattheure, je générais 2000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, avec ce même mégawattheure, j'en génère 3000.
Ah oui.
Donc, il y a effectivement un focus sur l'énergie qui peut être fait pour en faire un levier de performance de l'entreprise. Voilà, et ça, c'est vraiment le focus qu'il faut avoir aujourd'hui pour se développer dans le contexte qu'on connaît et qui est amené à perdurer.
Et qui fera peut-être l'objet d'une nouvelle émission avec votre votre participation, Stéphane. Merci infiniment. Merci parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même qui est pas simple. Et merci, vous avez été très clair. Et merci de rester mobilisé auprès de tous ceux qui voudraient approfondir ces dispositifs. Un peu de musique et on se retrouve après pour découvrir le nouveau salon Effervescence. À tout de suite.
Io lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te. Le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei, non so che cosa fai, ma so di certo a cosa stai pensando. È troppo grande la città per due che come noi non sperano, però si stanno cercando. Scusa, è tardi e penso a te. Ti accompagno e penso a te. Non sono stato un divertente, penso a te. Sono al buio e penso a te. Chiudo gli occhi e penso a te. Io non dormo e penso a te.
Vous êtes bien sur Radio IDFM et ce matin dans l'économie en direct, focus sur les dispositifs mis en place par le gouvernement pour atténuer dans les entreprises les effets de la hausse d'énergie, des tarifs d'énergie, et focus également sur le prochain salon Effervescence avec à mes côtés Stéphane Beaupère, conseiller en développement industriel à la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France, Catherine Poquet, animatrice de réseau d'entreprises à la Chambre de commerce et d'industrie du Val d'Oise. Catherine, peut-être rapidement, puisque le temps tourne, vos principales missions en tant qu'animatrice avant d'aborder le salon Effervescence.
Alors, mes principales missions, donc comme l'indique ma fonction, je suis animatrice de réseau d'entreprises. La chambre de commerce qui est très attachée au fait de réunir et de sortir le chef d'entreprise de son isolement met en place des réseaux d'entreprise. Alors il existe différents formats de ces réseaux que je développerai pas aujourd'hui. Mm-hmm. Ça fera peut-être une autre émission. Oui. Mais voilà. En tout cas, nous on adapte tous les formats de façon à réunir à un moment donné toutes les activités, toutes les tailles de chefs d'entreprise, je veux dire. On essaye de s'adapter et de mettre en place des réseaux qui puissent répondre à quelle que soit la problématique du chef d'entreprise.
C'est ça, vous voyez, c'est un réseau qui fonctionne bien. On voit ça justement sur les réseaux sociaux. Alors, le 28 mars prochain se tiendra le nouveau salon Effervescence. Un salon qui est né en 2011 à l'initiative de l'ADPAVAB, Association des entrepreneurs du Val d'Oise.
Oui.
L'objectif étant de mettre en commun les dynamismes, de se rencontrer, de valoriser les savoir-faire de chacun. Un salon, je le rappelle, dont Philippe Acran avait eu l'idée à ce moment-là pour permettre à des entreprises en proximité sur le territoire de se rencontrer, d'échanger sur un temps limité alors qu'elles ne se connaissaient pas au préalable. Et un salon qui aujourd'hui fait le buzz dans le Val d'Oise tous les ans.
Je crois qu'en plus, d'année en année.
On l'attend avec impatience. Donc cette année, il se passe à Goussainville. Pouvez-vous nous le présenter, Catherine ?
Oui, tout à fait.
Prochain salon.
Donc c'est effectivement la ville de Goussainville qui reçoit donc cette 10e édition. Puisqu'on est vraiment sur la 10e édition, donc une édition anniversaire, donc qui réservera et aux exposants et aux visiteurs de belles surprises.
Oui.
Donc le lieu qui nous reçoit, c'est l'espace Pierre de Coubertin, qui est, avouons-le, un espace vraiment très grand. Je crois que c'est la première fois que le salon bénéficie d'un espace aussi important, puisque ça correspond. Enfin, en fait, on a 4000 mètres carrés. C'est énorme. Donc, on va pouvoir prendre nos aises et accepter plein d'exposants. Donc, le salon effectivement réunit toutes les entreprises de ce département pour mettre en avant ce que l'on appelle et ce que l'on met bien en avant au sein de ce département, le Made in 95. Comme vous le disiez très justement, ce salon qui a pris naissance sur le territoire de Argenteuil-Bezons avait vocation à faire découvrir les entreprises les unes aux autres et en fait à bien souvent, on va chercher des fournisseurs qui sont parfois à l'autre bout de la France ou voire même maintenant avec les problèmes de circulation à l'autre bout de la région parisienne. Alors que parfois, dans sa zone d'activité, on pouvait tout à fait avoir une entreprise qui réponde à ses besoins. Donc, ça a vraiment été mis en place dans cette idée. Et effectivement, depuis 10 ans, depuis plus de 10 ans d'ailleurs, le salon a pris de l'ampleur. C'est-à-dire qu'il est au lieu de toucher les zones d'activité d'Argenteuil-Bezons, on y a associé d'autres réseaux d'entreprises. Ce qui est aussi la particularité de ce salon, c'est donc on y a.
Il arrive à fédérer plein de.
Voilà,
réseaux.
C'est ça. En fait, ce salon, s'il existe aujourd'hui et s'il a l'ampleur qu'il a, c'est grâce aux réseaux d'entreprises qui sont associés à l'organisation. Et aujourd'hui, l'organisation, en fait, est faite par un comité de pilotage qui est représenté par entre 20 et 25 personnes qui donnent de leur temps, en fait, qui font partie de ces réseaux d'entreprises et qui sont bien souvent aussi eux-mêmes chefs d'entreprise. Et en fait, l'organisation, elle est faite bénévolement, elle est mise en place bénévolement par ces chefs d'entreprise qui donnent de leur temps. C'est important de le repréciser, puisqu'en fait, derrière, il n'y a pas une organisation, c'est pas un prestataire qui est là pour... c'est vraiment du temps donné par ces chefs d'entreprise. Et ça, c'est important de le rappeler.
Et donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il marche aussi bien.
Peut-être, exactement, oui, exactement. Oui. C'est que voilà,
les énergies, une synergie même qui se dégage.
Ouais. Voilà, tout à fait. Et ils sont bien placés pour savoir ce qui intéresse les chefs d'entreprise et de les faire venir. Ouais. Donc, ce salon donc regroupe, comme je le disais, toutes les activités. Donc, on a à la base la vocation, c'était pour les industriels, mais de plus en plus, on a des services, hein, des services à l'industrie, toutes sortes d'activités. On reçoit aussi au sein de ce salon des écoles. Et puis on mobilise tous les acteurs économiques de ce département, car au-delà des réseaux d'entreprise au sein de ce comité, il y a aussi les chambres consulaires, comme la Chambre de commerce et d'industrie de Val-d'Oise, que je représente aujourd'hui, mais également la Chambre de métiers et de l'artisanat, le CEVO, le comité d'expansion économique. Il y a la préfecture aussi qui est présente.
Le réseau Entreprendre, les FCE, enfin voilà, c'est très vaste.
Quand je parle de réseau d'entreprise, effectivement, c'est toutes les associations, l'ADPAVAB, l'AIGPF, le club ACE, les experts comptables, je ne vais pas tous les citer, ils vont mourir aussi, parce que si j'en oublie un, ils vont m'en vouloir. En tout cas, c'est la force de ce comité de pilotage. Donc, effectivement, ce salon a vocation à réunir donc tous ces acteurs économiques. Et en fait, il se décline en deux parties. Et c'est ce qui fait en fait la particularité de ce salon également, c'est qu'il y a une première partie qui se déroule de 11h à 14h, qui est vraiment dédiée aux exposants. Les exposants se retrouvent entre eux, donc il y a un speed meeting business qui se met en place, alors en plus de façon très conviviale, puisque ça se passe autour d'un déjeuner. Très léger, mais qui facilite les échanges. Et ensuite, on a l'ouverture au public à partir de 14h30. Alors, il y a l'inauguration, les discours, l'ouverture par le préfet et des personnalités qui seront présentes également. Et donc, avec cette ouverture, on remet aussi, et je reviendrai plus particulièrement après dessus, on remet les trophées effervescence à ce moment-là. Je vous expliquerai pourquoi et comment se déroulent ces trophées. Et l'après-midi, jusqu'à 18h, les autres entreprises, alors qui n'ont pas choisi d'être exposantes, mais qui ont soif de découvrir toutes les activités présentes du Val-d'Oise ce jour-là, sont les bienvenus en tant que visiteurs de déambuler entre les stands et de rencontrer tous les chefs d'entreprise présents. Donc on est d'année en année, on est entre maintenant 230 et 250 entreprises exposantes qui sont là donc toute la journée, et sur la totalité de la journée entre les exposants et les visiteurs, on est à peu près à 1000 personnes qui échangent, discutent, c'est vraiment très riche. Faut bien le spécifier, c'est un salon, mais qui a vraiment cette formule unique et de légèreté et de convivialité d'échange. Ça fourmille toute la journée, c'est très agréable.
Je le dis aussi à chaque fois, mais comme depuis plusieurs années maintenant, vous avez la gentillesse d'inviter Radio IDFM, on y participe et c'est toujours un grand moment d'échange, je confirme, absolument. Donc, vous vouliez nous parler de la remise des trophées, Catherine.
Oui, tout à fait. Alors, sur ce salon, on essaye de mettre en évidence, en tout cas en avant, des entreprises selon certaines thématiques. Alors, il y a le trophée de la création d'entreprise, le trophée de l'innovation et le trophée du Made in 95. Donc, les exposants qui souhaitent, qui sont inscrits aujourd'hui et qui vont s'inscrire demain.
On peut encore s'inscrire, oui.
Tout à fait. Ont la possibilité de concourir à ces trophées. Donc, c'est très léger comme organisation. Ils ont un petit texte de présentation à faire sur ce qu'ils veulent présenter. Et il y a le matin même du salon Effervescence, il y a les jurys qui se tiennent, qui vont... Donc les candidats, les lauréats vont pitcher hein, vont présenter leur projet. Après, il y a un jury qui se tient et ils vont délibérer et donc décider qui remporte cette année le trophée, donc sur les trois trophées que je viens de vous citer. Et donc, ce qui permet à l'entreprise d'être mise en avant, mmh. puisque la remise des trophées se fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 14h30. Donc, le matin, l'entreprise est pitchée, le jury se tient et la remise est faite dans la foulée, voilà, à l'ouverture du salon.
Il y a une vraie mise en lumière de cette entreprise.
Complètement. Absolument. Et vraiment, on incite les entreprises à participer à ces trophées, puisque c'est vraiment, voilà, il y a beaucoup. C'est un grand moment. Il y a beaucoup de buzz après qui est fait sur les réseaux sociaux pour mettre en avant ces entreprises lauréates.
Elles viennent souvent, d'ailleurs, après, on les reçoit sur DFM Radio.
Voilà. Il y a de l'écho encore plusieurs mois après le salon. Et la particularité pour cette 10e édition, c'est qu'il y a le trophée des 10 ans. D'effervescence. Alors là, il y aura pas, c'est pas un appel à concourir. C'est le comité des décisionnels, je dirais, des trophées, qui va au sein des exposants repérer l'entreprise qui a été la plus fidèle au salon Effervescence. D'accord. Et qui a vu une croissance d'année en année. Donc ça, c'est vraiment une décision
qui revient en propre au comité
d'organisation.
C'est ça. Très bien. Donc voilà, il y a un suspense.
Voilà.
Tout le monde va être sur la sellette.
Roulement de tambour. Oui.
Et donc, ce qui est nouveau aujourd'hui aussi, cette année, c'est le village Sémaris, Catherine.
Tout à fait.
Je vous laisse nous l'expliquer.
Tout à fait. Comme nous sommes sur le territoire de Goussainville, hein, qui nous reçoit, d'ailleurs, je mets en avant l'aide précieuse que la ville de Goussainville apporte à l'organisation du salon Effervescence, qui sont très présents au comité d'organisation et c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux. Et je voudrais aussi préciser l'apport de Roissy Développement et de la communauté d'agglomération de Roissy Pays de France sur l'aide à l'organisation de ce salon. Donc effectivement, donc comme nous sommes sur ce territoire, qui va voir un projet qui s'appelle le projet Agoralim, qui va arriver sur ce territoire. Donc, on ne pouvait pas organiser cette édition du Salon Effervescence sans mettre en avant ce projet. Et effectivement, on va, on est en partenariat avec la Sémaris sur l'organisation de ce village. On va mettre en avant, sous forme de pôle, des producteurs locaux. Un pôle aussi qui va tourner autour de l'innovation et de la formation, toujours alors lié à la filière alimentaire. Hein, on est sur la filière agroalimentaire. Absolument. Et un pôle aussi distribution qui pourra mettre en avant des restaurations collectives, des restaurants privés. Enfin, voilà. C'est vraiment mettre en avant. Alors, comme vous avez eu l'occasion de parler du projet Agoralim, c'est vraiment de mettre en avant toute la filière agroalimentaire, pardon, et qui a dans l'idée de améliorer la chaîne alimentaire et la répartition entre le sud et le nord de la région parisienne. Et on est là, enfin, ce projet Agoralim est là pour mettre en avant les producteurs locaux. Les circuits courts et le Vexin et le Nord, enfin le département du Val d'Oise a plein de richesses au niveau de producteurs, d'agriculteurs. On a des producteurs, enfin des brasseurs aussi qui ont tout à fait leur place. Enfin voilà, on a un territoire très riche et village sera là pour mettre en avant ses producteurs. Donc là, il y a aussi un appel. Voilà, si vous entendez et que vous avez envie de vous mettre en avant, n'hésitez pas de contacter le comité d'organisation Effervescence et également Roissy Développement qui est aussi et la comité d'agglomération qui est impliqué dans la mise en avant de ces producteurs locaux.
Oui, eh bien écoutez, c'est, vous avez raison de le préciser. Donc si des auditeurs, auditrices nous écoutent et veulent participer à ce pôle village Sémaris, il ne faut pas hésiter, vous êtes à leur écoute. Je trouve justement très, très intelligent d'avoir et choisi cette ville de Goussainville pour et d'avoir fait ce village Sémaris parce que ce projet Agoralim, beaucoup de gens en entendent parler, mais on ne sait pas encore complètement ce dont il s'agit. Et là, voilà, ça va permettre de faire un focus supplémentaire.
Exactement, ouais. Un éclairage.
Ce que je voulais dire, vous disiez que c'était pour les circuits courts. Enfin, il y a plein de facteurs positifs, mais ça va être aussi une façon de fournir beaucoup d'emplois, hein, Agoralim.
Tout à fait.
Ça va être un vecteur d'offre d'emplois important.
Sur ce secteur, oui, voilà. Tout à fait.
Il faut en parler encore et encore. Donc, aujourd'hui, Catherine, j'ai compris que vous pouviez encore accueillir des exposants.
Oui, tout à fait. Les inscriptions sont toujours ouvertes. Elles le seront jusqu'à début mars, puisqu'après, bon, on rentre dans une phase, je dirais, terminale d'organisation. Donc, et les entreprises qui font partie aujourd'hui des réseaux partenaires de l'édition bénéficient encore jusqu'au 28 février d'un tarif préférentiel qui est de 300 euros. Alors voilà, c'est important de préciser, oui, puisque c'est quand même un salon qui vous permet de mettre en avant votre savoir-faire. Enfin, je parle aux entreprises là, votre savoir-faire et votre activité pour quand même un moindre coût.
Ah oui,
300 euros pour avoir une journée de visibilité et de rencontrer d'autres chefs d'entreprise. Donc, si vous appartenez à un réseau partenaire, vous trouverez d'ailleurs sur le site du Salon Effervescence, saloneffervescence.fr, vous aurez tous les partenaires. Si vous faites partie de ces réseaux, n'hésitez pas à nous rejoindre en tant qu'exposant. Et sinon, si vous n'êtes pas exposant, si vous n'êtes pas adhérent à ces réseaux, vous êtes toujours les bienvenus et c'est l'occasion ou jamais justement de rejoindre un de ces réseaux.
Il est important de dire que l'entrée est gratuite.
Hein, alors pour les visiteurs l'après-midi, effectivement, les personnes qui veulent, les entreprises qui veulent venir découvrir,
oui,
les
pour
exposants,
le public, bien sûr.
Oui, il y a une inscription en ligne à faire en amont. C'est quand même préférable, mais effectivement, c'est gratuit. Si l'inscription est bien faite préalablement sur le site internet.
Très bien, mais écoutez, je crois qu'on a, de toute façon, on n'a pas fini d'en parler du Salon Effervescence parce que je pense qu'on aura encore l'occasion d'en parler. Mais vous nous avez dit l'essentiel. Vous voulez ajouter quelque chose, Catherine ?
Oui, je voudrais préciser la particularité de ce salon, c'est que tout le monde a la même visibilité, quelle que soit sa taille, son activité, puisque c'est le salon, le comité d'organisation qui fournit les manches debout, et c'est vraiment l'identité de ce salon, c'est que chacun a son manche debout avec la même signalétique, donc il n'y a pas de différence entre petite entreprise, grande entreprise, tout le monde a la même visibilité et a le droit à la même chose. Et le petit cadeau de fin de salon, c'est que chacun repart avec son stand, son manche debout. On ne veut rien garder, tout le monde repart avec son manche debout.
Voilà. Oui, Philippe Écran et David Cruchon nous avaient expliqué qu'ils avaient trouvé cette formule qu'il valait mieux que chaque exposant reparte avec son manche debout. Mmh. Comme ça, ils n'avaient pas à les stocker derrière.
Et il n'en reste plus un seul. Chacun est ravi de partir avec son manche debout.
Pareil, chez IDFM Radio, on les récupère et ils sont quelque part dans les studios. Merci infiniment, Catherine, pour cette présentation. Et puis, comme je le dis, on aura bien l'occasion d'en reparler d'ici le 28 mars. L'émission se termine dans quelques minutes. Juste un petit mot de conclusion, Stéphane, avant de nous quitter.
Bien, moi, je vais rebondir un petit peu sur ce salon Effervescence. Moi, j'ai intégré la chambre de commerce il n'y a pas très longtemps. J'ai eu la chance déjà de participer à deux de ces salons. Le premier, c'était la découverte. J'en avais plein les yeux. Oui. Et effectivement, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que pour un salon, c'était difficile de repérer qui était la grosse entreprise, qui était la petite entreprise. Parce qu'effectivement, tout le monde est logé à la même enseigne. Donc ça, c'était quelque chose de fort. Et la deuxième visite que j'ai pu faire sur ce salon, j'ai un petit peu découvert plus l'esprit, on va dire, qui anime ce salon. Donc, on parlait d'une ambiance amicale, mais c'est bien plus qu'amicale. Les gens se connaissent, donc on a plutôt des habitués qui viennent quand même.
Oui, qui ont plaisir à se retrouver.
Mais des habitués, ils ont plaisir à se retrouver. Et ça parle de business, clairement. C'est le motif du salon et ça parle de business, mais dans un cadre qui est agréable. Et ça, c'est aussi important de le souligner, d'insister dessus, c'est très agréable. J'ai aussi été intéressé par les différents membres qui viennent, les différents visiteurs, avec notamment les scolaires qui viennent.
Ah oui.
Et ça, c'est intéressant, notamment pour l'industrie, pour leur faire connaître l'industrie d'une autre façon. Et c'est d'une façon très, très agréable.
Ben, écoutez, merci pour ce beau plaidoyer pour effervescence. Catherine, une minute pour un mot de conclusion.
Eh bien, vraiment, si vous ne connaissez pas le salon Effervescence, vous perdez un rendez-vous important de la vie économique du Val d'Oise. Donc, je ne peux inciter les entreprises, les réseaux, c'est ça aussi. Il n'y a pas que les réseaux d'entreprises, mais il y a aussi ces événements qui sont là pour sortir de son quotidien, sortir de son isolement et d'aller à la rencontre de toutes les entreprises. Donc venez nombreux et je vous dis, c'est une 10e édition et il y aura plein de surprises. Donc ça vaut vraiment le coup de venir.
Et c'est vrai qu'on y fait de très belles rencontres. Merci infiniment Stéphane Beaupère et Catherine Poquet d'avoir été les invités en direct sur IDFM Radio. Merci Francky pour la technique. À 11h, retrouvez l'émission Balade musicale avec Christophe Graveau. Merci à nos auditrices et auditeurs pour leur fidélité comme à chaque émission. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son podcast comme bon vous semble sur le site idfmradio.fr. Lundi, c'est Paul Nathan qui animera un nouveau numéro de l'économie en direct. Et moi, je serai là mardi matin. D'ici là, belle journée, prenez grand soin de vous et de vos proches. Thank you.
Partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Goodbye, Norma Jean. No, I never knew you at all. You had the grace to hold yourself while those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever did. That Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long legend ever did. Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you crawled. More than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long ever did. Your candle burned out long before the legend ever did.
On a tous des hauts, on a tous des bas.
On a tous le cœur chaud quand on se prend dans les bras.
On s'est tous senti seul au moins une fois.
Quand on n'aime pas sa gueule, quand il n'y a rien qui va.
Dis-toi que c'est la même rengaine, que t'es pas tout seul avec ta peine.
Et qu'on t'emmène là-bas, oublier tout ça, les coups durs, les chagrins, ça nous fait un point commun. On t'emmène chez nous pour oublier tout, s'ils sont durs les réveils, c'est qu'on est un peu pareil. Allez, chante un peu, ça va déjà mieux. On t'emmène à l'abri, retrouver de l'énergie. Allez, viens chez nous pour oublier tout. Allez, viens chez nous, on t'emmène, on t'emmène, on t'emmène. On t'emmène.
On est tous en colère quand l'avenir nous ment.
On a tous des galères qu'on vit injustement.
Des passages David des marques du temps.
On a tous l'air de rien, mais on aime passionnément.
Dis-toi que c'est la même histoire, que t'es pas seul à broyer du noir.
Et qu'on t'emmène là-bas, oublier tout ça, les coups durs, les chagrins, ça nous fait un point commun. On t'emmène chez nous pour oublier tout, s'ils sont durs les réveils, c'est qu'on est un peu pareil. Allez, chante un peu, ça va déjà mieux. On t'emmène à l'abri, retrouver de l'énergie. Allez, viens chez nous pour oublier tout. Allez, viens chez nous, on t'emmène, on t'emmène, on t'emmène. On t'emmène.
Si tu te sens un peu amer, dis-toi qu'il n'y a pas de joie sans peine. Les ennuis, ça va, ça vient.
T'es pas seul avec ta colère. Tends-moi la main, prends la mienne.
La vie ça tient à rien. Et qu'on t'emmène là-bas, oublier tout ça, les coups durs, les chagrins, ça nous fait un point commun.